Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, fin à Kenge de l'Assemblée épiscopale des évêques de l'archidiocèse de Kinshasa, Messeigneur Franz Saka de Popokabaka, Bafoui Dinongo et Mbimbi de Boma affirment que des mains invisibles et sanguinaires se cachent actuellement à Kinshasa derrière la crise de Kwamout. Nouvelle éruption du volcan Nyamulagira au nord Kivu, une coulée de lave se dirige dans la zone non habitée du parc de Virunga. L'observatoire volcanologique de Goma exhorte les habitants de la ville à rester calmes. Notre invité, c'est le directeur du Monde des Abeilles, une structure de production, de conditionnement et de commercialisation de produits des abeilles au sud Kivu. Dieu merci Mahano appelle au secours des abeilles pour une production agricole respectueuse des pollinisateurs. Madame, messieurs, bonsoir. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. Ce message a sanctionné la troisième édition de l'Assemblée épiscopale des évêques de l'archidiocèse de Kinshasa, une réunion tenue à Kenge du 16 au 21 mai 2023 sous la présidence du cardinal Fridolin Ambongo. Parlant de la crise de Kwamout ces jours-ci, Messeigneur Marie-Bernard Fansaka de Popokabaka, Donatien Bafouidi Sony Dinongo et José Claude Mbimbi de Boma estime que des mains invisibles et sanguinaires à partir de Kinshasa se cachent derrière ce conflit de Kwamout. D'autres précisions avec le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. On écoute l'abbé Edouard Isango dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
À l'issue de plusieurs visites pastorales sur terrain, des entretiens, des contacts et des témoignages recueillis auprès des différentes couches de la population, nous en sommes venus à l'intime conviction que des mains invisibles sanguinaires à partir de Kinshasa se cachent derrière tous ces conflits. En effet, partis d'un litige foncier, ces conflits sont récupérés par des personnes qui défendent des intérêts occultes à caractère politique et économique. En paraphrasant le pape François, nous disons haut et fort à la conscience des personnes qui sont des vrais responsables de ces conflits et de ces massacres. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. Agissez en responsables pour protéger notre peuple. Cessez de manipuler et d'instrumentaliser un peuple déjà meurtri par la souffrance, la misère et les deuils récurrents.
Bonne nouvelle pour les usagers de la route Butembo-Mangoridipa. Aucune taxe illégale ne sera désormais payée par des miliciens Maïmaï. Ainsi en a décidé le commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui a vécu personnellement le calvaire des habitants de ces taxes lors d'une mission officielle dans ce coin de territoire de Lubero. Annonce faite à la presse par le porte-parole de ces opérations militaires, le capitaine Anthony Malouchaï s'est confié à Guylaine Kassassia.
Nous avons trouvé que la population de là souffre à cause de Maïmaï UPLC. Ils ont accepté d'être cantonnés à Kalunguta pour attendre le processus de désarmement. Mais curieusement, nous avons trouvé les éléments, ces réclamants de UPLC, presque tout au long de la route, en train de tracasser la population. Nous avons, sans attendre l'ordre de qui que ce soit, nous avons mis l'ordre sur cette route et nous avons récupéré ces Maïmaï pour les acheminer dans leur camp de cantonnement à Kalunguta. Donc personne ne peut payer l'argent sur son tronçon. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a donné l'ordre au commandant Axe Sud de déployer les militaires sur son tronçon pour sécuriser la population et ses biens. Car les utilisateurs de ce tronçon payaient cher. Donc pour traverser le pont, le véhicule payait 5000 francs, et même des motos aussi, par jour. Si vous traversez deux fois, donc vous allez payer 5000. Et si vous attendez pour demain, vous êtes obligé de payer encore 5000 francs pour la population qui n'a pas de travail à par le champ, c'est beaucoup. Donc, on a mis de l'ordre. On a instruit le commandant Axe de déployer les militaires jusqu'à Mangoudipa.
Nord-Kivu, encore plus de 2000 déplacés ne sont pas assistés depuis leur arrivée en février dernier à Bweremana dans le groupement de Mufundi-Shanga, territoire de Masisi. Conséquence, 7 personnes parmi lesquelles 5 enfants sont morts de maladie. La société civile fait remarquer que depuis que ces personnes ont fui l'avancée des rebelles du M23 à Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, et n'ont reçu ni vivres ni médicaments essentiels. Les précisions avec un membre de la société civile. Local, Frilubert Buholo est au micro de Gabriel Wamenya.
La situation des déplacés est vraiment très très déplorable aussi. Depuis qu'ils sont là, sinon ils n'ont jamais été assistés en vivre. Nous remercions ACR qui est venu avec des bâches, avec d'autres ustensiles de la maison. À part CCC, il n'y a aucune organisation alors qui est venue les assister en vivre. Vous comprenez qu'on ne peut jamais vivre sans manger. Et maintenant ils sont là, ils mangent seulement vraiment.
Et combien de ménages?
Ils sont actuellement à 2491 ménages dans tous les sites de Bourema. Jusque là, oui, il y a ceux qui meurent de choléra, et surtout les enfants. D'autres meurent de paludisme. On a déjà perdu, je pense, une affaire de 5 enfants et 2 hommes. Donc, comprenez qu'il y a vraiment des décès. Je pense que les autorités, ils essaient un peu de se réunir avec les comités là. On essaie un peu de conscientiser, se déplacer là-bas, leur montrer qu'un jour viendra leur assister, leur disant qu'ils sont en train de mener des plaidoyers. Peut-être, par la grâce de Dieu, il y aura une assistance.
L'échec n'est pas du tout permis dans l'avancement du PDDRCS lancé au mois d'avril dernier en Ituri et que nous devons matérialiser pour pacifier la province. Déclaration faite vendredi dernier par le gouverneur lors du lancement de l'initiative pilote d'appui au PDDRCS pour la réinsertion d'ex-combattants. Ce projet exécuté par l'OIM va coûter 6 millions de dollars américains. Le général Johnny Luboyankashama salue l'implication de la MONUSCO qui vise à restaurer la paix dans cette province. Ces propos ont été recueillis par Ezekiel Mouzalia.
Nous savons tous qu'à travers toute la province, les attentes pressantes de nos populations, leurs espoirs et leurs yeux sont tournés vers le désarmement et la démobilisation des groupes armés par le programme DDRCS. La combinaison de l'état de siège dans sa double approche militaire et non militaire avec le PDDRCS, dans ses différents piliers, constitue la voie ouverte pour ramener la paix dans notre province, pour se mettre au service du développement. Toute la population iturienne est conviée à accompagner ce processus autour des parties prenantes dans une démarche inclusive, participative et transparente. L'échec n'est pas permis. Nous avons tous une obligation de résultat pour ramener la paix et la sécurité dont nos populations ont tant besoin.
Revenons un instant au Nord Kivu où l'observatoire volcanologique de Goma signale une coulée de lave sur le flanc ouest du volcan Nyamulagira depuis le 9 mai dernier. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, l'OVG précise qu'après quelques jours d'éruption à l'intérieur du cratère, la lave coule désormais en direction du parc national de Virunga. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Denyangi.
L'OVG fait le constat que la lave du volcan Nyamulagira coule vers la zone non habitée du parc. En même temps, il est noté une accumulation des cendres volcaniques, cheveux de pellet et des scories émanant du volcan dans l'air et qui retombent dans les zones habitées en fonction de la direction du vent. De ce fait, l'OVG recommande à la population de Goma notamment de garder son calme, de vaquer à ses occupations et à chaque fois de bien laver les légumes et des fruits avec de l'eau propre, et d'éviter tout usage aux consommations des eaux de pluie déjà contaminées. Il recommande aussi aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région de Virunga. Le centre de recherche sur le volcan annonce avoir mis en place un système permanent d'observation de cette nouvelle éruption du Nyamulagira à partir de son réseau de surveillance et tiendra la population informée de l'évolution de la situation. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Plus de 80 000 enfants sont attendus à la vaccination contre la rougeole dans la zone de
santé de Beni au Nord Kivu. Annonce faite hier samedi après-midi par le médecin chef de la zone de santé lors du lancement de la campagne. Il fait remarquer que cette maladie fait déjà des victimes dans cette partie du pays. C'est ce que nous explique Guylaine Kassassia.
Un seul enfant non vacciné contre la rougeole constitue un danger pour sa famille, voire même pour la communauté tout entière. C'est ce qu'a fait remarquer le médecin chef de zone de santé de Beni lors du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole hier à Beni. D'où son appel à chaque parent de s'approprier cet exercice en apportant son enfant dans les sites le plus proche. Docteur Frank Fikiri.
Dans nos structures, nos formations sanitaires, nous avons déjà des cas de rougeole que nous sommes en train d'enregistrer. Dans les communiqués publiés par son excellence, monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, la ville de Beni est parmi les entités les plus touchées par les cas de rougeole. Pour dire qu'à Beni, il y a encore des enfants malades de rougeole, une maladie contagieuse, et il y a même ceux qui en sont morts, pour vouloir signifier que c'est une maladie grave. Je lance un appel à tous les parents d'orienter les enfants dans des sites de vaccination les plus proches. Faire vacciner son enfant, c'est l'aimer.
Ils sont au total 87 578 enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois qui seront vaccinés pendant 7 jours à site fixe. Sauf en cas de besoin, les équipes de vaccination pourront aller vers les enfants se trouvant dans des milieux les plus reculés des sites présélectionnés. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Politique à présent. Au Sud Kivu, le représentant d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi-Tchapwe et SID de Martin Fayulu-Madidi et LGD d'Augustin Matata Ponyo à pied d'œuvre à Uvira dénonce l'insécurité dans l'est de la RDC et la vie chère au pays. Ce ras-le-bol a été exprimé à la presse aujourd'hui à l'issue d'une manifestation qui a été organisée au centre de jeunes de Kavimvira à Uvira, la correspondance de Fiston Gomamayabala.
Une forte mobilisation des membres est observée dans la salle des conférences. Partout sur les murs, des calicots sont affichés avec effigie des 5 leaders de l'opposition. 3 exposés sont présentés devant le public avant le jeu des questions-réponses des journalistes. Le secrétaire exécutif provincial adjoint de l'SID, Mauno Kambaza Paulo, circonscrit son récit sur l'insécurité grandissante dans le contexte d'Uvira.
Dans la plaine de la Rusizi, vous connaissez les kidnapping et autres choses que nous connaissons. Ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux, la stratégie est simple pour mettre fin à cette situation. C'est d'avoir les hommes forts qui rassurent à côté du peuple. Nous voulons aussi compter sur notre propre armée. La RDC ne doit pas compter sur l'armée étrangère pour espérer une paix durable.
De son côté, le représentant de Moïse Katumbi, lui, a insisté sur la vie chère qui affaiblit la région d'Uvira, Fizi Mwenga. Guilain Kikwire Kalangwa est président fédéral de l'Ensemble pour la République à Uvira.
On doit continuer à pousser. C'est à nous maintenant de prendre conscience et prendre le destin en main pour que l'histoire change. C'est décidé parce qu'on ne doit pas continuer à être manipulé, à être trompé chaque fois.
Signalons qu'aucun incident majeur n'a été signalé pendant cette activité qui a regroupé des membres venus de la plaine de la Ruzizi, de Bujumbura et d'Uvira Centre. D'Uvira Fiston Gomamayabala, Radio Okapi.
Et puis comment prévenir les violences en période électorale en RDC dans la partie Est? C'est autour de cette question que les membres des différents partis politiques et les représentants de la société civile de Beni ont échangé hier samedi dans le cadre d'un dialogue organisé par l'ONG Bénévolat pour l'enfance. La rencontre d'hier a été sanctionnée par des recommandations. Les comptes rendus de Guylaine Kassassia.
Lors de cet échange, il était question de faire des analyses sur les causes qui peuvent engendrer des violences à période électorale. Dadi Azor, point focal des Benafas Congo à Beni, explique.
Nous avons pensé qu'il est important de réunir les jeunes et les autorités afin de se mettre d'accord sur les risques qui peuvent ressurgir, évidemment à travers les attitudes des uns et des autres qui peuvent engendrer la violence et beaucoup plus. Les conflits doivent démarrer dans la communauté après ces processus.
Pour les participants, seule l'information sur le processus électoral pourra permettre un beau climat dans les prochains jours. Mouli Esaïe de l'école pour la citoyenneté Écocite est l'un d'eux.
Ils devrions tous, chacun à ce qui les concerne, apprendre d'abord à connaître c'est quoi les élections et savoir consommer les résultats.
Séance tenante, les participants ont émis différentes recommandations, notamment aux partis politiques d'être suffisamment informés sur la culture électorale. C'est là en envoyant surtout des témoins et observateurs bien qualifiés pour leur apporter des rapports crédibles à la société civile qui est aussi une organisation d'appui à la démocratie, de bien canaliser les revendications des uns et des autres pour qu'elles trouvent gain de cause et enfin à la CENI de garder son caractère indépendant. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les représentants de l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah et des paramilitaires de forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo ont accepté finalement ce week-end un cessez-le-feu d'une semaine à partir de demain lundi. La nouvelle est annoncée dans un communiqué conjoint paraphé par les représentants des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie Saoudite. Et puis après 3 jours de réunion marathon au Japon, le sommet du G7 s'est achevé ce dimanche après-midi avec les conférences de presse finale des dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète. Alors que le sommet devait aborder des sujets tels que la coercition économique de la Chine et le changement climatique, l'arrivée surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Hiroshima a du coup monopolisé l'événement.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur du Monde des Abeilles, une structure spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation des produits des abeilles au Sud Kivu. Dieu merci Mahanou appelle au secours des abeilles pour une production agricole respectueuse des pollinisateurs. Il s'entretient à Bukavu avec Rachel Kessembangou.
Monsieur Mahanou, bonjour. Journée mondiale de l'abeille, qu'est-ce que cette journée représente pour vous, apiculteurs?
Bonjour madame, la journée mondiale de l'abeille, c'est pour nous une occasion d'échange, une occasion de réflexion en tant qu'apiculteur pour réfléchir aux différents problèmes, aux différents défis qui guettent notre secteur dans le contexte où les abeilles sont attaquées, sont menacées, même avec un taux de mortalité aujourd'hui avancé. Et nous devons nous mettre à réfléchir. C'est les apiculteurs du monde entier qui se regroupent chaque 20 mai pour réfléchir sur les problèmes spécifiques du domaine apicole. C'est le cas pour nous et aujourd'hui aussi. Nous nous rassemblons pour réfléchir sur le thème mondial qui nous est proposé. Volons au secours des abeilles pour une production agricole respectueuse des pollinisateurs.
Alors pourquoi ce thème?
Le thème a été choisi par la FAO pour cette année et ils ont voulu qu'on échange et qu'on réfléchisse parce que on a constaté que le taux de mortalité d'abeilles est en train d'accroître de jour au lendemain et les causes sont nombreuses. Il y a des abeilles qui sont tuées par les œuvres philanthropiques de l'homme. Par exemple, les gens qui volent les abeilles, qui les brûlent, qui font de mauvaises manipulations, mais aussi qui déforestent. Il y a les gens qui font des trafics des abeilles, les gens qui les consomment, ainsi de suite. Donc ce sont là les problèmes qui font que les abeilles puissent disparaître petit à petit. Mais de l'autre côté, on voit que l'agriculture pour laquelle les abeilles travaillent aussi constitue encore une menace. Pourquoi? Les agriculteurs, avec des pratiques non durables, utilisent des produits chimiques qui vont tuer encore les abeilles. Il y a aussi les agriculteurs qui font aussi l'agriculture sur brûlis, qui vont causer des feux de brousse et les abeilles vont se décimer. Voilà pourquoi le monde entier, à travers la FAO, a voulu qu'on puisse échanger sur une agriculture qui est respectueuse des pollinisateurs. Pas celle qui va détruire les pollinisateurs, mais c'est une agriculture qui sera augmentée à partir des pollinisateurs et qui doit respecter les pollinisateurs à son tour.
Quel traitement, vous, apiculteurs, accordez-vous à cet animal, l'abeille, et comment le commun de mortels devrait traiter cet animal?
L'abeille, c'est notre champ de bataille. Quand on est en train de tuer les abeilles comme ça, pour nous, on se sent vraiment très touché, puisque nous vivons de cet insecte, nous vivons de ça, et tout le monde, directement ou indirectement, vit de ça, puisque c'est ce qui pollinise toutes les plantes champêtres pour que nous ayons des graines, que nous ayons des fruits, et aussi la respiration, notre respiration de l'oxygène, l'oxygène en dépend. Voilà donc. Donc, c'est tout le monde qui devrait comprendre que l'insecte abeille, c'est vraiment un insecte maître de l'environnement, comme les autres l'ont dit. Donc, tout le monde devrait respecter et concourir à sa protection pour qu'enfin l'abeille puisse nous protéger à son tour.
Quelles sont ces innovations apicoles que vous allez partager avec les autres apiculteurs?
Il y a beaucoup d'innovations dans le secteur de la transformation de produits apicoles. Ce n'est pas ce qui se fait à gauche qui se fait à droite. Et à travers ces échanges d'expérience, les apiculteurs qui viennent des territoires voient ce que les autres font et imitent. Il y a aussi des visites d'immersion que nous faisons à gauche à droite, et comme récemment nous sommes venus de l'Égypte pour échanger avec eux, ça sera l'occasion de faire la restitution et montrer aussi la manière dont l'apiculture est faite en Égypte pour que les autres puissent en servir de modèle.
Dieu merci Mahano, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur du Monde des Abeilles, une structure spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation des produits des abeilles au Sud Kivu. Dieu merci, Mahano Mungu Iko a été interrogé à Bukavu par Rachel Kiesemangoué. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Alain Rong Mouchich qui m'a accompagné.